Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Vous êtes sur ce radio.
Il est 20h. Il est 20h.
Parlons vrai.
Les informations, Manon Bacour, bonsoir.
Bonsoir
Manon.
Bonsoir à tous. On commence par du rugby et pas de grand chelem pour le 15 de France féminin. Pourtant invaincu jusque-là, les Bleus ont chuté ce soir lors de la dernière journée du tournoi des 6 nations féminins face à l'Angleterre. Une rencontre qui se déroulait à Bordeaux dans un stade Chaban-Delmas plein à craquer. Une défaite 21-42, mais les Bleus terminent seconde au classement. Ça gronde dans le ciel du sud-ouest. Trois départements sont toujours placés en vigilance orange pour des risques d'orage ce soir. Le Tarn-et-Garonne, le Lot et la Dordogne. Dans ce dernier département, 9000 foyers sont actuellement privés d'électricité. Des arbres sont tombés sur des câbles à haute tension. Plusieurs trains ont également été supprimés car une ligne à haute tension est tombée sur les rails à l'ouest de Sarlat. Ces orages accompagnés de vents forts et de chutes de grêle sont encore attendus. L'alerte doit courir jusqu'à ce soir 23h. La convention nationale de la LICRA, prévue initialement sur le campus de Sciences Po à Reims, a dû être délocalisée à l'hôtel de ville aujourd'hui en cause en blocage du campus en soutien à la cause palestinienne. Cet incident intervient au lendemain d'une mobilisation pro-palestinienne tendue sur le campus parisien de Sciences Po, qui s'est finalement conclue par un accord entre manifestants et direction. De son côté, Gabriel Attal a affirmé qu'il n'y aurait jamais de droit au blocage dans les universités. Le Premier ministre a déploré un spectacle navrant. C'est un impôt créé par Emmanuel Macron et qui impacte de plus en plus de Français. L'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF en 2018 a été soumis à 7% de Français supplémentaires en 2023. C'est ce que révèle la Direction générale des finances publiques. Cet impôt a rapporté à l'État environ 1,9 milliard d'euros en 2023, en hausse de 6% par rapport à 2022. Et puis Marseille se prépare à l'arrivée de la flamme olympique. La métropole a dévoilé les 8 Vénus à la flamme sur l'esplanade du G4. Ces statues en fibre de verre ont été réalisées par l'artiste phocéen Laurent Perbos. Des œuvres qui seront installées dans chaque commune traversée par le relais de la flamme olympique qui fera escale à Marseille le 8 mai. Bonne soirée à tous.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes bien sûr Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 23h avec ce soir Clermont, Stade Français, Paris. Il y a de la pression sur les Clermontois, la radio libre rugby est ouverte, le standard est ouvert au 0826 300 300. On est avec Quentin Cabanis, avec Clément Combe, Antoine Mazer et bonsoir Rémi Dos Santos. Comment ça va Rémi?
Salut Alexandre, bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, merci, et toi?
Ah bah très bien, ce soir match très important qui est encore un peu plus important que prévu parce que avec les résultats du jour, les Clermontois ont forcément une pression particulière.
Et oui, parce que si on regarde le classement ce soir, à l'instant T, Clermont est 12e, donc premier non barragiste certes, mais avec seulement 3 points d'avance sur Montpellier. Heureusement que Montpellier a perdu, mais il va falloir se remettre à gagner.
Pourrait valoir cher, hein.
Ça, s'ils veulent ne plus trop regarder derrière, il va falloir gagner face au leader.
On va rappeler tous les résultats avec Quentin Cabanis de cette 22e journée du Top 14, oui. Avec notamment le gros coup aujourd'hui de Perpignan à Montpellier.
Oh, il y en a eu plusieurs, des gros coups.
Des victoires extérieures, on a eu déjà quelques-unes.
Ah oui, j'en compte plus d'une, déjà au moins deux. Donc c'est déjà quelques-unes. Le Stade Toulousain, en tout cas, en début de journée, a battu le Racing 92-32-12. L'UBB s'est imposé avec la manière face à l'Aviron Bagnonnais à l'extérieur 34-15. J'ai cru que ça allait passer secrètement. Mais
l'Aviron Bagnonnais.
Ah ouais, donc carrément quoi. Vous mettez à deux. Très bien, parfait. Ok, je préfère quand tu en as qu'un des deux. Allez, Lyon a battu la section Paloise 38-20. L'USAP s'est imposé face au MHR à l'extérieur 25-20. Oyonnax a battu le Castres Olympique 22-19.
Merci beaucoup Quentin. Et puis défaite aussi de l'équipe de France féminine pour le dernier match du tournoi de destination. Large défaite face à l'Angleterre qui réalise encore une fois le grand chelem.
42-21.
Et oui, et deuxième place quand même pour l'équipe de France, mais on va pas se mentir, ce résultat est plutôt attendu. Ouais, d'ici 20h20, on vous attend, vous, au 0826 300 300, 0826 300 300, avec une sorte de on peut le dire ainsi, de qui je suis. Quentin Cabanis.
Ah, bah d'accord.
Allez, ça plutôt prévu.
Alors, c'est un qui je suis auquel vous n'avez pas le droit de participer. C'est ce sont les auditeurs qui vont intervenir pour ce qui je suis. Okay. Ah bah oui, parce que sinon c'est trop facile. On va faire des équipes. On va quand même pas forcer. Alors, vous m'écoutez bien, je vais donner quelques indications sur un joueur. Vous appelez le 0826-300-300. Si vous avez le joueur, vous remportez un maillot et un ballon du Stade Toulousain. C'est Sud Radio qui offre dès à présent. Je suis né à Auch en 1997. J'ai fait ma carrière chez les jeunes à Auch avant d'aller à Montauban, à Jeun.
Oh là là.
Et je suis désormais un joueur du Stade Toulousain. Je sais que vous l'avez en studio. Mais vous, auditeur, est-ce que vous l'avez? 0826-300-300. Je suis passé par Auch où je suis né, Montauban, à Jeun. Et je suis désormais un joueur du Stade Toulousain. J'ai 26 ans. Et j'étais titulaire aujourd'hui face au Racing 92. La première personne qui a le nom du joueur au 0826-300-300 remportera un maillot du Stade Toulousain et un ballon du Stade Toulousain. C'est maintenant 0826-300-300. On va revenir sur les rencontres de Top 14. On accueille, tiens, au 0826-300-300. Il n'a pas le droit de participer parce qu'il est beaucoup trop fort à ce jeu-là. William Debrief. Salut William.
Oui, salut. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va et vous? Très bien.
Bah, ça va très bien. Quel est le résultat le plus marquant de cette 22e journée, selon toi, William?
Parce qu'on a tellement envie d'y croire. C'est une belle histoire pour les Catalans, quoi, qui représentent tellement de choses dans le rugby et le rugby qu'on aime, quoi. Hyper, hyper combatif. Ils ont eu des saisons compliquées. Donc là, on a tellement envie d'y croire de voir les Catalans dans le top 6, même si Franck Zema ne veut pas encore en parler, mais cette victoire, elle est belle parce qu'il passe un cap. C'est plus simplement les combattants M. Giral, ils sont capables de gagner à l'extérieur. Donc vraiment, c'est hyper marquant de la saison top 14, oui.
La victoire de Perpignan aujourd'hui, c'est le grand coup de la journée. Quentin est un peu tempérant en disant, oui, il y en a plusieurs des grands coups. Rémi Dos Santos, selon toi, est-ce que c'est le grand coup de cette journée?
Je sais pas, parce que il y a quand même eu des vrais gros.
C'est pas si évident que ça.
Non, c'est pas tant, parce que vu.
Tu t'y attendais.
Bah, vu la dynamique un petit peu, je suis vraiment pas surpris. Je suis vraiment pas surpris et il y avait tout l'atmosphère pour cette victoire, je trouve.
C'est vrai qu'il y avait près de 4000 personnes à Perpignan, un public à Montpellier qui était un peu plus feutré. Ouais. Antoine Mazer, est-ce que ça a pu faire la différence?
Ça a sûrement joué. En tout cas, on a senti une équipe qui avait pas la même dynamique que l'autre, en tout cas, et forcément dans les liaisons, dans les moments de jeu. Alors c'est vrai que sur cette première mi-temps, Johan le disait très justement, cette première mi-temps, peut-être qu'on a senti que l'événement était un peu trop grand, peut-être pour les Perpignanais qui n'ont plus forcément l'habitude de vivre des matchs comme ça, des matchs couperets, des matchs où on sentait que c'était plus qu'un match de championnat top 14. Mais c'est vrai que ils ont été galvanisés, notamment on va dire dans des moments chauds, dans des moments charnières, en fin de première mi-temps, j'y pense. Et en deuxième mi-temps, ils ont été transcendés. On les entendait parce qu'on entendait même le speaker de Montpellier qui essayait d'annihiler un petit peu cette ambiance, cette atmosphère qui était largement en faveur des Catalans.
Ah, il était speaker et capot.
Oui, les deux à la fois. Alors là, il s'est passé quelque chose quand même de très fort. On a déjà quelqu'un qui a trouvé...
Oui.
Le joueur du Stade Toulousain, ça a été extrêmement
c'est
rapide.
Philippe Spanguero?
Non, c'est pas Philippe Spanguero.
Alors,
il a beaucoup changé.
On va dans quel coin de France?
On va à Toulouse.
On
n'a pas besoin d'aller chercher très loin et on va voir Brigitte du côté de Toulouse qui est première à avoir trouvé la réponse.
Alors, Brigitte.
Oui.
Est-ce que c'est la bonne réponse? Moi, je sais pas. Quel est le joueur?
Si, c'est la bonne réponse.
Et vous avez dit quoi?
C'est qui m'a soufflé?
C'est qui? Faut lui donner le nom.
Grau.
Paul Grau. Paul Grau. Bravo Brigitte. Bon bah c'est cadeau, c'est gagné. Maillot du Stade Toulousain et ballon du Stade Toulousain. Allez hop, c'est gagné, c'est Sud Radio qui offre.
Je suis trop contente.
Ah bah c'est nous qui sommes contents. Brigitte, merci de nous écouter, merci d'écouter Sud Radio Rugby.
Ah bah oui.
On est franchement très très contents.
Je suis ravie.
Le maillot, vous le demandez à votre taille ou aux tailles du mari?
Ah non, ma taille, tant qu'à faire.
Ah bah oui.
On lui donnera le ballon.
Il aura le ballon.
C'est ça.
Et le maillot, il sera pour Brigitte. Bon bah bravo Brigitte, merci de nous écouter.
Merci beaucoup.
Vous écoutez souvent le rugby sur Sud Radio?
Ah ben oui, tous les matchs du top 14, oui. J'écoute tous les matchs.
Ça fait plaisir. Ah bah merci beaucoup.
Là,
merci beaucoup Brigitte.
Donc voilà.
Elle vous est tombée au bon moment.
Et je suis abonnée au stade de Toulousain quand même.
Ah oui, dans un beau maillot pour aller voir le stade.
Ah là, il va falloir.
Depuis peut-être 20 ans. Alors, oui,
quand même. Ah oui, oui. Bah, Paul Graou, du coup, pour vous, c'était facile. Paul Graou, non, voilà, donc.
Facile, oui.
Oui, je me suis. J'ai hésité un petit peu. Voilà, je me suis dit,
Paul Graou. Alexandre, il y a eu des erreurs. Hein.
Ah oui, alors qu'est-ce qui est piégé?
Bah, il y a Hoche, etc. Il y en a.
Oui, j'ai fait exprès d'appuyer un peu sur Hoche.
Voilà.
Alors, pour qu'il y ait des Dupont qui soient.
J'ai eu du Dupont. J'ai en effet eu du Dupont. Voilà.
Dupont à Jeun, je l'ai pas honnête.
Oui, bah c'est ça. Mais bon, écoute, quand t'es pressé, tu penses Hoche et t'appelles vite. Et voilà. Et il y a quelques noms qui pouvaient sortir et Dupont est sorti, mais c'était Graou.
C'était bien Paul Graou. Merci beaucoup Brigitte. Restez bien au téléphone. On prend toutes vos coordonnées. Puis on prend la taille du maillot aussi, parce qu'il va falloir qu'on vous l'envoie ce maillot. Il faut qu'il vous scie à la perfection. Bah avec grand plaisir,
merci.
Brigitte.
Merci.
On est toujours avec William, notre auditeur de. Mais bah, bon week-end aussi. Et puis demain, on aura deux maillots et deux ballons à faire gagner. Mais vous n'avez pas le droit de rappeler, Brigitte. Sinon, c'est trop facile. Vous êtes trop forte. On est toujours avec William de Brive. William, c'est vrai que cette victoire de Perpignan, elle était imaginable. Est-ce que le succès d'Oyonnax face à Castres l'était tout autant aujourd'hui? 22-19, scénario un peu fou quand même, avec deux cartons rouges pour le Castres Olympique qui restait quand même sur une victoire importante face à La Rochelle. Victoire sans suite.
Victoire sans suite, et puis là, Oyonnax, c'est compliqué, parce qu'on a l'habitude des fois des derniers qui lâchent et qui jouent pas forcément leur rôle d'arbitre. Et puis là, Oyonnax, si on avait vu les interviews du staff, c'était nous ce qu'on veut, c'est gagner un match en 2024. Ils parlaient même pas à domicile à l'extérieur, on savait qu'ils allaient vraiment jouer des matchs, pour les gagner, donc ils ont été, compétiteurs jusqu'au bout. Donc, victoire embêtante pour Castres dans la course à la qualif, bien évidemment. Mais super pour Oyonnax, parce que ça veut dire qu'Oyo va jouer ce top 14 jusqu'au bout. Donc, ça va être extrêmement intéressant. On ne saura pas à l'avance que les équipes prendront 5 points contre Oyo. Donc, c'est extrêmement intéressant pour le top 14. Et on a vu un exemple parfait aujourd'hui.
Alors, je vais poser la question. C'est vrai qu'on enterre tous un peu vite Oyonnax. Est-ce qu'Oyonnax est toujours dans la course pour le maintien? Rémi Dos Santos, Antoine Mazer, Clément Combe, Quentin Cavanis.
Non.
Il y a 39 points pour Montpellier, 30 pour Oyonnax. Malgré la victoire, ça change rien, Antoine? T'es catégorique?
Bah oui, il y a 14 points. 14 points quand même, ça fait.
Je parle du barrage.
Ah, il y a 14 points. Il y a 14 points sur le barrage, hein. 28 points, je vois 42 pour Montpellier.
Il y a surtout un calendrier très compliqué.
Il y a 14 points sur le barrage. Il y a 9 points sur le barrage. Qu'est-ce que tu racontes?
Ah, je vois Oyonnax à 28 et Montpellier à 42.
Non, il y a 39-30.
Ah oui, j'ai pas mis à jour. Oh, là, carton bleu, là, protocole commotion. Non, 9 points. Ah oui, ça change pas mal de choses, même si je pense que ça va quand même être court.
Ah bah oui, 14, 3. Ça aurait été compliqué, mais 9 points, c'est pas infaisable.
C'est pas infaisable, mais ça voudrait dire, deux victoires bonifiées, au moins. Et il reste 5 journées, tu le disais, Alexandre. 4 journées? 4 matchs?
4 journées. Ouais, Oyonnax va à Pau. Oyonnax ensuite reçoit Toulon, reçoit Bayonne,
peu victoire,
et
peut-être.
Va à Bordeaux.
Franchement, moi, je vois une victoire au mieux, personnellement.
Je vois 6 points. 6 points pour Oyonnax sur cette fin de saison.
Je pense que le calendrier est beaucoup trop compliqué.
Alors, du coup, on met un peu Oyonnax dans la charrette. Est-ce que il y a une véritable bataille entre Montpellier, Lyon et Clermont? Clermont, on en saura plus ce soir. Mais Bayonne arrive dans cette lutte pour le maintien, là, est invité à la table alors qu'il n'avait pas réservé.
Bah oui, en fait, ils jouent sur leur suffisance à domicile. C'est vrai que l'exploit de l'UBB ce soir,
ça faisait un petit moment, hein.
Bah oui,
que Bayonne n'avait pas perdu.
Ça faisait plus de 800 jours. Plus de 800 jours, la dernière fois en championnat de France, c'était en Pro D2. Ils ont réussi à Jean Daugé, hein. On parle bien de Jean Daugé, hein, parce qu'ils ont eu des défaites en délocalisation à Noëta. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même cette année, c'est passé plus ric-rac. L'année dernière, on sentait vraiment une vraie maîtrise de Jean Daugé. Cette année, il y a eu des victoires, on se rappelle face à La Rochelle, où ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a vraiment eu des au Stade Français également, où ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. On se dit, est-ce que là aussi, ils vont réussir à aller chercher cette fameuse victoire face à l'UBB, qui pourrait justement leur permettre de prendre un petit peu de distance et continuer cette série à Jean Daugé? Et on sent que là, il manquait un petit peu de suffisance pour cette équipe de Bayonne. Et bien sûr, elle s'invite largement à la course avec Montpellier, Clermont et Bayonne.
Et ben tiens, on va tout de suite voir un auditeur de Bayonne. Bonsoir Léo.
Bonsoir à tous.
Sale journée aujourd'hui, hein, sur la Côte d'Azur.
Très compliqué, très compliqué, mais finalement un peu attendu quand même, peu attendu.
Pourquoi? Parce que vous avez laissé chanter Patrick Bruel en avant-match.
Le gilet Grigo par Patrick Bruel,
le droit. Ça.
Non.
Par contre, c'est vrai non, il a pas apporté la pluie vu qu'elle était déjà là, mais.
Elle est bien tombée.
Ah ouais, là, ça a bien tombé, en début de match, mais Ouais, non, mais pour parler rapidement du match, bon, c'est pas vraiment surprenant. L'UBB, ils arrivent avec la grosse équipe, ils restaient sur un gros match. Et voilà, honnêtement, il n'y a pas vraiment eu de match. Enfin, l'UBB a globalement dominé pendant toute la partie. On y aura cru pendant 3 minutes avec le début de deuxième mi-temps. Et puis après, bon, l'UBB a remis la marche en route. Voilà, moi, je suis pas vraiment surpris par ce match, mais ça va paraître même bizarre ce que je vais dire, mais je suis un peu presque soulagé, parce que voilà, il fallait que cette invincibilité à Jean Daugé tombe. Elle est tombée, ça tombe contre une grosse équipe.
Quoi,
de
c'était
l'UBB.
Un mirage. Jusque-là, c'était un mirage qui entretenait une potentielle bonne saison qui n'a pas lieu d'être. Hein.
Mirage, peut-être pas. Moi, honnêtement, je nous voyais vraiment perdre déjà contre La Rochelle. Pour moi, l'invincibilité à domicile, elle aurait pu tomber contre La Rochelle. Après, non, on reste pas non plus invaincu 28 matchs à Jean Daugé de suite. Donc, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a eu voilà quelques, on s'est fait prendre dans l'envie par le combat par l'UBB. Et puis il y a eu aussi quelques attitudes côté Bayonnais pas très rassurantes et j'espère que là maintenant il y a plus de joker et ils vont vite se remettre la tête à l'endroit.
Tiens, justement l'aviron bayonnais, on avait tous dit en début de saison que l'aviron s'était renforcé. William de Brive et Léo de Bayonne, une équipe qui s'était renforcée, mais pourtant le goût qu'il y a dans la bouche, c'est une saison moins aboutie de Bayonne. Comment on l'explique ça, William?
Mais tu peux te renforcer avec des joueurs qui ont un potentiel potentiel meilleur ou des qualités. Après, ces qualités de combattant, l'éventuelle fierté de ressembler de représenter un club historique basé sur le combat, sur cette envie de pas perdre à domicile, c'est quand même des profils particuliers qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc il y avait une équipe qui avait un équilibre, qui a abordé d'une part une compétition top 14 où elle était attendue beaucoup plus, une compétition européenne qu'elle n'a pas s'aborder du tout. Donc il y avait deux compétitions à aborder en même temps et quand même des joueurs majeurs qui sont très utilisés par la force des choses quand on ne veut pas lâcher une des compétitions. Donc il y a aussi une fatigue des joueurs qui sont hyper importants dans ce projet que tu as et dans le sens que tu donnes aux choses.
Léo.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que, bon, on le sait tous, on est cette année dans un championnat ultra relevé, ultra serré en plus. Et c'est vrai que, voilà, Bayonne n'a plus cet effet de surprise de l'an dernier. Il y a quelques blessures qui font assez mal. Je pense à des absences de Luc Tadji, Makala, etc. Il y a eu quelques absences qui ont fait mal. Comme l'a bien expliqué William, il y a des joueurs comme Lopez qui sont surutilisés et qui manquent peut-être un peu de repos. Voilà. C'est vrai que cet ensemble, on va dire, additionné à des équipes qui viennent à doger pour nous faire tomber avec les crocs, voilà, il fallait que ça arrive un jour, c'est arrivé aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire et surtout un gros bravo à l'UBB.
Cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui a fait un très très gros match. Tiens, parlons un tout petit peu de ce soir rapidement. Clermont, Stade Français, Paris, votre pronostic, il va à quelle équipe, Léo et William? Léo, tiens.
Le Stade Français, on sait qu'il reste sur une victoire à l'arraché. Clermont, vu les autres résultats, comme vous l'avez expliqué, ils ont le droit à l'erreur. Surtout avec un calendrier de fin de saison, ils vont avoir des matchs couperés. Donc moi, je verrai une victoire de Clermont, mais un match serré malgré tout.
Victoire donc à l'arraché de Clermont. Et de ton côté, William, rapidement?
Match hyper serré et victoire de Clermont, parce que s'il bascule vers une 13e place, c'est pas un club habitué à battre la donc ce serait terrible, terrible sur les derniers matchs.
Et le coup d'envoi ce soir est à 21h05 sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Rémi Dos Santos, Antoine Mazer, Clément Combe, Quentin Cavanis. Voilà, pour vous servir ce soir. Merci beaucoup à William, merci beaucoup à Léo. Très belle soirée à vous deux. Merci d'écouter Sud Radio. Merci d'avoir composé le 0826-300-300. Dans un instant, Mathieu Reynal est l'invité de Philippe Spanguero pour Destin de Rugby. Et puis tiens, on parlera un petit peu de l'affluence des clubs en top 14 et en pro D2. Est-ce que le top 14 est toujours la locomotive du rugby français? Ce sera, le débat à partir de 20h40. Tout de suite.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio à Brignoles en DAB+.
Sud Radio.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé...
Oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café.
Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Sud Radio, la radio du rugby.
Mathieu Reynal, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans ce rendez-vous, les destins du rugby, pour revenir sur une carrière déjà très riche malgré ton jeune âge, parce que t'as même pas 43 ans. Et malgré tout, il s'en est passé des choses dans cette longue vie d'arbitre. Alors, je suis ravi de t'accueillir, je le répète. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est ton rapport au rugby avant de basculer dans cette carrière d'arbitre qui a démarré en 2009.
Bon, bonjour à tous, ben, merci de me recevoir déjà. Ben, écoute, moi, j'ai joué au rugby à l'USAP jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, bon, je faisais mes études à Font-Romeu, les études en staff. Donc, mon colocataire, on jouait à l'USAP ensemble. Donc, on descendait aux entraînements trois fois par semaine. Disons que mon père m'avait mis un peu la pression pour les études. Donc, j'ai arrêté de descendre aux entraînements trois fois par semaine. J'ai continué le rugby là-haut à Font-Romeu. On jouait à 13, en universitaire à 13. Et j'ai commencé l'arbitrage, ben, au début par curiosité, et après j'y suis resté parce que j'ai profondément aimé ça. Voilà, je considère que c'est un sport à part entière, et donc j'ai aimé ce sport-là, j'ai aimé le pratiquer, j'ai aimé le faire étant jeune, et voilà, après c'est devenu mon métier, donc ça a été différent. Et oui, c'est vrai que le parcours entre le moment où j'ai décidé de franchir la porte d'un comité pour aller commencer l'arbitrage et aujourd'hui où j'ai annoncé la fin de ma carrière, il a été super riche et ça a été vraiment un parcours de vie extraordinaire. J'ai jamais eu l'impression de travailler et j'ai profondément aimé mon métier, quoi. Voilà.
Alors, tu en as fait ton métier quelques années après avoir commencé cette carrière d'arbitre professionnel. C'est en 2012 que tu décide de franchir le pas. Pourquoi cette décision? À quel moment tu te dis que tu veux y dédier ta vie complètement?
Ben, moi, j'aurais aimé être professionnel avant. Simplement, la règle à l'époque, c'était que tu devenais professionnel. La Fédé te donnait un contrat de pro que quand tu étais au panel international, donc quand tu étais dans les 15-20 meilleurs mondiaux. Et moi, je leur disais tout le temps, j'ai besoin d'être professionnel pour arriver dans les 15 ou 20 mondiaux. Donc je me souviens, au début c'était très compliqué parce que j'étais prof, j'enseignais, donc des fois je finissais le vendredi à 16h le boulot, j'enfilais un costard sur le parking du lycée et je partais à Toulouse et le soir j'arbitrais Toulouse-Montpellier tu vois, en top 14. Donc c'était pas des conditions idéales pour moi. Bon, je trouvais qu'on aurait pu faire plus pour l'arbitrage beaucoup plus tôt. Ça a toujours été un combat que j'ai mené. J'ai toujours sollicité les instances pour qu'on ait plus de moyens pour pouvoir bosser. En tout cas, ça a été comme ça. Donc, en 2012, quand je suis rentré dans les arbitres internationaux, dans le panel des arbitres internationaux, c'est à ce moment-là que la Fédé m'a fait passer professionnel. Donc voilà, depuis 2012, j'en ai fait mon métier et j'ai dû arrêter donc d'enseigner. Ouais.
Bah parce qu'après, il y a de magnifiques moments. Il y a cette finale arbitrée au Camp Nou à Barcelone. J'imagine qu'elle avait une signification particulière pour toi, en bon catalan que tu es. Au-delà de l'histoire même du rugby, parce que ça a été une finale et dans son contenu et dans la façon dont elle s'est déroulée qui restera dans les annales. Il y a des Coupes du Monde, il y a des événements magnifiques. Alors, c'est toujours une question difficile. Mais si tu devais en retenir un en particulier, en commençant à te retourner vers cette carrière qui n'est pas encore finie mais qui va s'achever dans quelques semaines, est-ce qu'il y en a un qui ressort au milieu de tous les autres?
Je t'en dirais trois, on était un peu plus large. Il y a le Irlande All Black à Chicago en 2016, parce que bon, c'était aux États-Unis, c'était démesuré le contexte et c'est la première fois où les Irlandais battent les Blacks dans leur histoire et ça avait été un match incroyable. Donc celui-là, oui, la finale à Barcelone, bien sûr, parce que c'est chez moi, qu'avait ma famille, mes amis, et que, comme tu le dis, en tant que Catalan, c'est un immense honneur d'arbitrer au Nou Camp.
Je te coupe, mais elle est magnifiquement arbitrée en plus parce que tu fais un grand match ce jour-là. Il y a ce carton rouge qui est difficile à mettre parce que on pense qu'il va fausser cette finale complètement parce qu'il arrive très tôt dans le match. Il faut quand même les coronesses de le mettre à ce moment-là, même si la règle te donne raison.
Il a une saveur particulière. Ouais. J'ai jamais compris l'histoire, si tu veux, d'un carton rouge qui faussait le match parce que 15 jours avant, j'arbitre Afrique du Sud, Irlande, à Newlands, là au Cap. Je mets un rouge à CJ Stender aux Irlandais. Et au bout de 12 minutes de jeu, et ils battent les Sudaf pour la première fois de leur histoire à 14, tu vois. Donc j'ai toujours, chaque fois que j'ai mis un rouge tôt, du moins dans ma carrière, après je connais pas les statistiques des autres, et sans changer mon arbitrage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est parce qu'il a compensé ou quoi, pas du tout. Chaque fois que j'ai mis un rouge tôt, l'équipe à 14 a fait quelque chose d'extraordinaire derrière. Donc j'ai jamais compris l'histoire de changer le match quand tu mettais un rouge tôt. Mais oui, ça avait été c'était un match voilà fabuleux et on en garde un bon souvenir. D'ailleurs, Max Machenot un jour j'intervenais avec le Racing à Courchevel en stage avec eux et il m'avait offert son maillot, donc j'ai son maillot numéro 9, tu vois, ça m'avait vachement touché. Ouais. Et donc j'en garde un très bon souvenir.
Et le troisième, je t'ai coupé, il y a un troisième match qui t'a marqué particulièrement.
Ouais, bien sûr, c'est la finale des Lions britanniques contre l'Afrique du Sud parce que les Lions, c'est tout simplement mythique. De par sa rareté, ça a lieu tous les 4 ans. Tu vois, là, c'était contre les champions du monde en Afrique du Sud. C'était le troisième test. Il y avait 1-1. Donc arbitrer les Lions, c'est un immense privilège. Arbitrer le troisième test quand il y a 1-1, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité. Mais après, ça, j'en garde un souvenir incroyable. Voilà, et garde un souvenir incroyable de la soirée aussi qu'on avait fait derrière avec Ben O'Keefe, Nick Berry et tout, parce qu'on avait relâché la pression, tu vois, de cette série de 3 tests qui avait été compliquée, mais c'est des moments forts et je suis super fier d'avoir eu cette opportunité-là d'arbitrer les Lions sur un match comme ça.
Écoute, c'est des souvenirs magnifiques pour toi, mais aussi pour tous les amoureux de rugby, donc forcément, quand les gens vont nous écouter, Mathieu Reynal, parce que je le répète, pour ceux qui nous prennent en route, on est ensemble pour les destins du rugby. Quelques semaines après que tu aies annoncé ta retraite internationale, ta retraite tout court d'arbitre, jeune, à même pas 43 ans, il te reste quelques semaines à vivre. Est-ce que tu es rentré dans le syndrome des dernières fois, où à chaque fois que tu vas sur un stade ou à chaque fois que tu vis un rendez-vous rugby, tu penses au fait que c'est la dernière fois?
Ouais, j'échappe pas à la règle, tu vois, d'être entre deux, d'avoir voilà ce côté très très heureux de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai eu, de soigner ma sortie, d'avoir fait les choses bien et de laisser une belle image. mais aussi triste de laisser de côté un métier que j'aime profondément et que j'ai profondément aimé. Donc, de me dire que c'est les derniers moments, c'est vrai que voilà, j'essaye de capter chaque instant, d'être poli avec la vie, comme dirait Kersozon, donc de prendre chaque moment, d'essayer de les garder en mémoire, de le partager avec les gens que j'aime, avec mon fils, etc. Donc, j'échappe pas à la règle, mais je me dis aussi qu'il y a d'autres choses à faire, hein, tu vois, d'autres projets. Donc je quitte pas l'arbitrage, je quitte pas le terrain sans avoir quelque chose derrière qui me passionne potentiellement aussi, tu vois. Donc, c'est dur, mais il faut savoir terminer, il faut savoir laisser la place aux autres, hein, il faut savoir soigner sa sortie aussi quand tu as eu une longue carrière. Pas abîmer la confiance que tu as pu gagner chez les uns et chez les autres, parce que pour un arbitre, c'est très dur de gagner la confiance des mecs, mais tu la perds très vite aussi. Donc, voilà, c'est important aussi de préserver ça. Et du moins, c'est ce que j'ai souhaité faire. Et je l'assume, même si parfois je te cache pas que je suis un peu triste que ça s'arrête. Ouais. J'irai arbitrer en série, je pense. J'irai faire quelques matchs chez moi à Collioure, à Prats de Molló et tout ça, comme à l'époque. Voilà, ça me rappellera de bons souvenirs aussi.
Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que tu n'as pas fini de servir l'arbitrage. Ça, j'en suis persuadé. Quand tu te retournes sur ces presque 17 ans de carrière professionnelle, alors pas complètement, puisqu'on le disait tout à l'heure, tu as été professionnel officiellement en 2012, mais tu avais commencé quelques années auparavant au plus haut niveau. Quel est ton regard sur l'évolution du rugby qui a un lien quelque part avec l'évolution de la société dans la violence par rapport à l'arbitre? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète?
Ça ne m'inquiète pas quand on parle du terrain. C'est-à-dire quand on parle des gens qui sont sur le terrain, entraîneurs, joueurs, arbitres, je trouve que les relations sont très bonnes. On a de super ambassadeurs de notre sport, dans tous les clubs. Bon, tu prends des mecs comme Antoine Dupont ou Romain Tamac, sont d'extraordinaires ambassadeurs pour notre sport. Je suis super fier, tu vois, que mon fils il s'identifie à des mecs comme ça parce qu'ils ont tout, talentueux, respectueux, tu vois, poli, etc. Donc, je suis confiant quand je vois ça. Je dis que plus on s'éloigne du terrain, plus l'environnement est hostile. Hein. C'est-à-dire que t'as le premier cercle, il n'y a aucun problème, joueur, entraîneur, arbitre. Ensuite, tu vas avoir spectateur, la presse. Donc là, ça commence à devenir un peu plus hostile par moment. Alors, parfois, c'est par manque de compréhension. La presse, c'est l'angle sous lequel, parfois, elle décide d'attaquer l'arbitrage, qui est la solution de facilité, si tu veux. Donc, d'aller très vite dans l'information, de jamais y amener de contrepoids, de jamais jouer un rôle hyper pédagogique et tout ça. Donc, ça, c'est un jeu dangereux pour notre sport. Et quand tu vas encore un peu plus loin, t'as les réseaux sociaux, la caisse de résonance qu'elle représente, où là, le milieu est très hostile et intolérant à l'erreur d'un arbitre. Parce qu'ils estiment qu'on a mis de la technologie autour des mecs avec la vidéo, les micros, etc. Et que toute cette technologie-là, elle devrait conduire au zéro faute, ce qui est absolument impossible. Tu vois, donc ils seront toujours confrontés à l'erreur d'un mec. Tu peux mettre ce que tu veux autour. Des drones, des puces dans les ballons, des mecs en blouse blanche au bord du terrain. Tu auras toujours un moment où tu devras être confronté à l'erreur d'un homme. Et ça, on gagnerait, on irait plus vite et on perdrait moins d'énergie à l'accepter qu'à vouloir le combattre.
Et Mathieu Reynal, quel serait ton argument principal demain à destination des jeunes qui pourraient être perturbés justement par cette pression extérieure, médiatique, qui amène des interrogations légitimes sur la volonté d'embrasser une carrière comme ça, parce qu'il y a un sentiment d'injustice quand même régulièrement dans la façon dont vous êtes jugé. Quel serait ton principal argument à destination de ces jeunes qui auraient envie d'embrasser une carrière d'arbitre?
Moi, si tu veux, j'ai eu un parcours extraordinaire, donc je... Ça a changé ma vie. J'ai pris énormément de plaisir dans ce que j'ai fait, y compris quand j'ai arbitré en niveau amateur, hein, pas uniquement le niveau professionnel. Je peux difficilement choisir. C'est vraiment un choix. Il y a plein de gamins qui aiment l'arbitrage. Il y a plein de gamins qui ont envie de le faire. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec les arbitres du comité du Gard. Tu avais des jeunes qui étaient en pôle espoir. Il y a des jeunes de 18 ans qui adorent ce qu'ils font, etc. Je dis, à minima, laissons-les rêver, laissons-les s'amuser, laissons-les considérer ça comme un sport à part entière, laissons-les aimer ce qu'ils font, arrêtons d'essayer au travers de la presse, des contestations, des critiques, de l'acharnement médiatique parfois, arrêtons de dégoûter ces gamins-là de ce qu'ils font, arrêtons de vacciner des générations de gosses contre l'arbitrage parce que c'est super formateur pour eux. Voilà, ça leur donne beaucoup de responsabilité, d'autonomie, ça les fait grandir beaucoup plus vite. Et puis on en aura besoin. Et un jour, si on a 2700 arbitres à l'heure actuelle, il en faudrait beaucoup plus pour arbitrer tous les matchs qu'il y a en championnat. Un jour, quand on se retrouvera sans arbitre, on se dira merde, on aurait dû considérer les choses différemment. Je trouve que les Anglo-Saxons, ils ont une approche différente de la nôtre. Nous, on est latins. T'as l'impression que l'arbitre, il doit s'excuser d'être ici en permanence, mais on devrait vraiment l'accepter comme quelqu'un qui fait partie du jeu à part entière, hein, qui, comme un buteur, il a le droit aussi à l'échec, il a le droit à la contre-performance comme un joueur. Tu vois, donc c'est plus dans la manière de traiter l'arbitrage que j'ai un conseil à donner à ceux qui le traitent de manière négative ou péjorative qu'à ceux, qu'aux gamins que je vois et qui, eux, sont motivés pour le faire. Ils n'ont pas besoin de mes conseils. Ils veulent déjà faire être arbitre. Donc, ne les dégoûtons pas de ça, quoi. C'est tout.
En tous les cas, Mathieu, on te sent habité par une forme de responsabilité. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est une page qui se tourne et une page importante parce que j'imagine qu'il y a l'appréhension de la perte de cette adrénaline parce que quand tu rentres dans un grand stade pour arbitrer un match important et tu vas en avoir un important à arbitrer dans quelques semaines puisque l'annonce vient de tomber, tu fais la demi-finale Leinster-Northampton, donc tu as encore quelques bons moments à vivre. Mais après, il y a une deuxième vie qui va s'ouvrir. Comment tu la vois cette vie et à quel niveau tu penses pouvoir servir l'arbitrage?
Bon, après, c'est un secret de polichinelle. On est en discussion avec Romain Poit et la Fédération française de rugby et la LNR pour prendre en charge les arbitres du secteur professionnel top 14 Pro D2. Alors rien n'est signé, mais les discussions sont quand même avancées.
Oui, puis il y a une volonté réelle des deux côtés, un besoin, donc il n'y a pas de raison que ça aboutisse pas.
Exactement. Donc on se dit que bon, ça a des chances d'aboutir. Donc si on a cette opportunité là, bien évidemment qu'on va peser sur le travail qui sera mis en œuvre dans le secteur professionnel, sur toute la filière arbitrage, sur la structuration de l'arbitrage, peser aussi dans les institutions, PCR, World Rugby, parce que ça soit Romain ou moi. On a quand même un parcours qui est respecté par les institutions. Donc on aura cette opportunité-là vraiment de travailler, de structurer l'arbitrage. On aura, si jamais on prend ces postes-là, on aura aussi la volonté de communiquer, de mieux communiquer autour de l'arbitrage parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Je crois que la World Rugby, le PCR, l'arbitrage dans son ensemble, on s'est toujours refusé à communiquer, à expliquer. Et moi, je crois qu'on doit prendre le contre-pied, si tu veux. On doit vraiment avoir la capacité d'éduquer le grand public, de donner les observables, d'expliquer aux gens que ce qu'on fait sur le terrain, c'est un consensus entre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. On ne décide pas seul de ce qu'on applique. Je pense que c'est sur ces axes-là qu'on pourrait éventuellement jouer un rôle, quoi, ou du moins peser, quoi. Voilà.
En tous les cas, je suis d'accord avec toi et on en a parlé plusieurs fois lorsque tu étais invité dans nos émissions. La communication, elle est majeure. D'abord, pour que le grand public comprenne votre quotidien, qui n'est pas facile, parce qu'il y a un niveau de pression à digérer qui est très particulier et spécifique. Et deuxièmement, je crois qu'on est rentré, mais ça n'engage que moi, dans l'époque du complotisme, largement étayé et renforcé par les réseaux sociaux, et que la non-communication amène de la suspicion en permanence sur l'honnêteté et l'intégrité des arbitres en particulier, là, parce que c'est ce dont on parle. Et donc, je suis persuadé qu'une surcommunication est nécessaire et importante pour qu'on comprenne beaucoup mieux quel est le quotidien, votre quotidien et ce que vous vivez.
Ah ouais, pour moi, c'est vraiment un axe essentiel. Si tu veux une communication agressive sur les réseaux, partout, sur la manière dont on travaille, sur aller chercher les jeunes, aller toucher des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, sur les formats, des formats très courts de communication qu'ils utilisent, peser aussi sur l'opinion publique, ça donnera aussi du poids à la France, tout simplement, parce que si tu pèses sur l'opinion publique à l'étranger, quand tu communiques sur l'arbitrage, t'es plus écouté à World Rugby déjà, et à le PCR. Donc c'est, pour moi, c'est un axe essentiel à l'avenir. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas je croise les doigts pour qu'on ait l'occasion un jour de mettre en œuvre voilà, les projets qu'on a et ce dont on discute à l'heure actuelle.
Écoute Mathieu, Rénal, c'est une belle conclusion. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi, donc quelques semaines après l'annonce de ton arrêt de carrière à la fin de la saison. Donc savoure ces derniers moments, il y a de belles échéances qui arrivent. Et cette énergie et, que tu as mis au service de cette cause qui est importante et avec beaucoup d'intégrité, tout le milieu le salue et le reconnaît. En tous les cas, je suis ravi de suivre ces dernières semaines qui te concernent avec intérêt. Et je te dis à très vite dans une autre vie.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.
C'est en avant l'écho.
C'est un en avant, c'est un simple en avant. Point.
Sud Radio, la radio du rugby.
Des millions, hein, vous êtes charmant. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
Où est l'argent? Où est l'argent?
C'est mon pot de noir, c'est rien ici.
En fait, je vais retirer de l'argent.
Shut up and take my money. Vous savez ce que ça fait 1 million, Larmina, Philippe Spanguero? Est-ce que vous savez ce que c'est 2,2 millions? C'est le nombre de supporters en top 14 depuis le début de la saison. C'est une affluence en hausse en top 14 et en pro D2, Philippe Spanguero. Est-ce le symbole d'une économie rugby en bonne santé, Philippe? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Alors, je vais préciser un petit peu les chiffres. 2,2 millions de supporters en top 14 depuis le début de la saison. Donc, c'est une hausse de 3,5% après 21 journées par rapport à 2022-2023. Donc, c'est un nouveau record qui pourrait d'ailleurs être atteint en fin de saison si la barre des 2,7 millions de supporters est dépassée. Et c'est des chiffres qui sont, j'imagine, très positifs, Philippe.
Oui, c'est extrêmement positif et à n'en pas douter, on va les dépasser puisque en plus le Stade Toulousain a annoncé qu'il recevrait le Stade Rochelet pour le dernier match de poule au Stadium de Toulouse qui sera forcément à guichet fermé. Donc voilà, c'est une saison assez exceptionnelle qu'on vit et qui fait du bien puisque c'est une période en plus d'une renégociation, on en a parlé récemment, de droits télé du côté de la Ligue Nationale de Rugby. Donc ça montre aux diffuseurs aussi à quel point il y a un engouement grandissant pour notre sport. On a la chance quand même d'avoir un sport assez propre avec de belles fêtes tous les week-ends dans les stades, pas de débordement, des clubs qui se structurent aussi et qui font ce qu'il faut pour aller chercher des recettes additionnelles, puisqu'on le répète, mais le rugby est basé sur une économie qui repose sur les jours de match beaucoup, donc la billetterie et les hospitalités fait en grande partie l'économie. C'est pour ça qu'on a vu encore le RCT délocalisé au Vélodrome la semaine dernière, c'est pour ça que le stade...
Plus de 60 000 personnes. Hein. Peuvent,
ouais, 60 000 personnes avec une équipe, soi-disant une impasse toulousaine. Donc voilà, c'est honnêtement un très très bon signal pour notre sport, pour ses partenaires, pour son écosystème. Et cette dynamique surtout, elle fléchit pas parce que c'est des hausses croissantes depuis de longues saisons maintenant.
Tiens, je vais donner encore un peu quelques chiffres. L'UBB qui affiche une affluence de 27 000 spectateurs en moyenne, c'est hallucinant. Toulouse 19 800, c'est-à-dire en fait quasiment guichet fermé à chaque match. La Rochelle qui est à 100% de taux de remplissage. Et puis même en Pro D2, hein, Philippe, avec Vannes qui atteint 10 500 supporters de moyenne. C'est la meilleure affluence. Et Béziers à côté qui a vu son affluence moyenne progresser de 29%, ce qui est colossal. Ce 29%, ça peut paraître peu comme ça, c'est absolument énorme. Et la Pro D2 aussi, c'est-à-dire que cet effet-là est aussi en Pro D2. Comment on l'explique? Qu'est-ce que cela traduit-il, Philippe, notamment en Top 14 et en Pro D2, avec des clubs qui semblent avoir réussi à mettre leur stade à la page, mais aussi l'expérience spectateur, supporter?
Oui, l'expérience spectateur, c'est très important et je crois qu'on est sur des prix qui restent raisonnables dans notre sport et ça s'explique de façon un peu différente en Pro D2 qu'en Top 14. Clairement, Béziers, pour moi, c'est lié à la performance sportive assez exceptionnelle. Le terreau est là, l'amour du rugby est là, mais il faut que les gens aient envie de se déplacer au stade en se disant qu'ils vont voir une équipe qui va jouer les premiers rôles. Ça fait partie de ces villes à la culture rugby très forte et qui se déplace pour les grands rendez-vous. Vannes, ils ont créé cette dynamique et ce socle depuis longtemps maintenant. Mais voilà, il y a cette forme d'homogénéité sur le territoire dont on parle. Lyon a des affluences moyennes aussi qui progressent beaucoup. Voilà, ça s'explique aussi par l'effort fait sur les infrastructures. Au-delà de l'expérience jour de match, il y a avant ce qu'on propose en expérience, vraiment l'infrastructure en elle-même, c'est lié à l'expérience, tu me diras, mais ça vient pour moi en amont. Et là, il y a des grosses réflexions qui sont menées. Et on voit qu'on a reçu Franck Belot du Stade Toulousain qui nous parlait de la nécessité pour le Stade Toulousain de revoir ses installations parce que c'est un club qui est à la traîne par rapport aux autres de ce point de vue-là. L'enjeu, il est là. Et tous les clubs l'ont compris et tous ont pris le sujet à bras le corps. Donc voilà, on a des stades qui deviennent plus agréables et plus grands aussi pour accueillir ce nouveau public. Donc la dynamique, elle s'explique comme ça.
Et quand on regarde un petit peu, alors évidemment les prix, tu dis, ils sont toujours abordables, oui, mais ils sont évidemment avec une tendance à la hausse, hein, année après année. Alors comment il fait le supporter pour en avoir toujours pour son argent? Parce que les prix augmentent, est-ce qu'il en a toujours autant pour son argent? Je prends par exemple le travail du côté de Toulouse avec des musiques sur les temps morts, avec des animations, avec une bodega forte, notamment tiens aussi à Paris, au Stade Français, au Racing 92, où vous substantez de boissons à la fin du match sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena. Voilà, comment les clubs, est-ce que tu as d'autres exemples de clubs comme ça qui ont mis des choses en place qui fidélisent les supporters, pas nécessairement que pour le match, mais aussi pour une heure avant et peut-être une heure et demie après, parce que c'est des revenus aussi, les consommations de boissons, ce genre de choses.
Ah, c'est des gros revenus. Donc, tous les clubs, j'ai des exemples. Oui, tous les clubs essaient de le faire avec plus ou moins de réussite. Mais l'enjeu dans l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, c'est d'avoir le plus gros panier moyen. Le panier moyen par personne, il se fait par la place de match et par les à côté, par le merchandising, par les consommations. Et donc, tout le monde essaie de mener des initiatives. Il y a régulièrement des clubs qui ouvrent les portes 2 heures avant avec des animations pour enfants, avec des jeux gonflables, avec plein de choses. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est super. Par contre, ça nous oblige à beaucoup de créativité dans le rugby parce que, je le disais, c'est super, mais à la fois, c'est notre limite, cette économie qui repose sur les jours de match. C'est-à-dire que quand tu passes un peu à côté sur 2 ou 3 matchs dans la saison, ça peut remettre en question ton équilibre budgétaire. Et il y a des clubs, comme on en parlait pour Béziers, où la performance d'affluence est très corrélée à la performance sportive. C'est vrai pour tout le monde, mais dans une moindre mesure. Ça amène quand même des questions sur aussi l'économie de ce sport. Et en ça, on ne va pas monter aux arbres et changer complètement le modèle. Mais la discussion la renégo des droits télé, elle va être importante.
Attends, moi, franchement, quand on regarde les affluences, tout le monde est à la hausse. Enfin, demain, si le Stade Toulousain annonce un stade de 25 000, si La Rochelle annonce un stade de 20 000 personnes, est-ce que si demain l'Union Bordeaux-Bègles annonce qu'il va jouer au Matmut parce que ils sont toujours à guichet fermé quasiment dans un stade de 30 000 places à Chaban-Delmas qui a besoin de travaux. Je veux dire, c'est des choses qu'on pourrait comprendre. Mais alors, comment fait le Top 14 pour ne pas trop se griser quand même? Parce que avec de tels chiffres, tu peux te laisser griser et te dire, écoute. On va tout voir plus grand, en fait, tout simplement.
Ben, je crois que ce que fait le top 14, c'est qu'on a la capacité, le rugby français a la capacité à regarder autour de lui. Et en fait, je le dis souvent, mais c'est une réalité. On se laisse pas griser parce que on sait que ça n'aurait pas de sens d'aller plus vite, plus loin, parce que ça décroche tous les autres et que être fort tout seul, ça n'a aucun sens. Et c'est-à-dire que demain, le rugby français, qui générerait 300 millions d'euros par an, qui aurait une affluence moyenne de 35 000 personnes, ok, ce serait super, mais à l'échelle du rugby, ça voudrait rien dire parce que les autres pays suivent pas. Et la vraie question à se poser, c'est quelle est la vraie économie du rugby? Je crois qu'on a trouvé le bon modèle en France. Objectivement, c'est le meilleur modèle du monde pour moi aujourd'hui. Avec ce salary cap-là, avec le principe de la DNACG, avec les règles telles qu'elles sont constituées par rapport à la protection des GIFs. Et voilà, et aujourd'hui, il faut juste être content de ce qu'on a, sécuriser un peu le modèle. La Ligue fait de bons résultats, renforce ses positions. Mais il ne faut pas chercher à aller plus loin parce que c'est faire une course contre nous-mêmes, en fait.
Ouais, et cette course contre nous-mêmes, elle pourrait être négative. Et puis, une dernière question que j'ai envie de te poser, pour le coup, là, c'est un problème qui n'a pas encore été vraiment résolu, quand même, Philippe. Il y avait une étude il y a quelques temps et un article, il me semble, dans le journal L'Équipe, qui évoquait l'âge moyen de l'abonné. Et alors, l'abonné, c'est quand même un personnage un peu différent parce qu'il est, il est là toute l'année, il est au cœur du club. Mais l'abonné moyen en top 14 en France, il a 60 ans. Comment expliquer cet âge-là? Et comment faire pour le rajeunir, cet abonné moyen?
Comment l'expliquer? C'est parce que dans cette culture rugby, dans les déplacements au stade, il y a encore, on a du mal à attirer ce jeune public. Comment faire évoluer les choses? Tu le disais, c'est par l'expérience spectateur, par l'entertainment autour des matchs par les têtes d'affiche. Voilà. Donc, on est en train d'y arriver. Je crois quand même, ce travail est fait. C'est aussi pour ça qu'on a essayé d'investir aussi sur le rugby à 7 pour amener de nouveaux publics à s'intéresser au rugby et potentiellement après pouvoir les raccrocher au rugby à 15. Mais c'est un enjeu majeur. C'est clair. Parce que le spectateur de 60 ans, il reste beaucoup moins à la buvette 2 heures après le match et il boit pas 4 ou 5 bières avec des copains.
Il poste moins sur les réseaux sociaux, il donne moins envie aux copains de venir parce qu'il poste sur les réseaux sociaux. Je veux dire, la jeunesse fidélise pas mal aussi. La jeunesse fidélise la jeunesse, quoi. Il va falloir enclencher cet effet boule de neige.
Ah, mais c'est clair. Mais ouais, c'est un enjeu majeur. Hein. C'est un enjeu majeur. Donc, c'est tous les clubs y travaillent. Tous les clubs ont leur stratégie sur le sujet, avec plus ou moins de réussite. Je crois quand même qu'on est en train de rajeunir l'audience et que le travail se fait bien et que l'expérience spectateur dans les stades et cette affluence moyenne, cette dynamique, elle renforce ça et ce pouvoir d'attraction.
Et c'est très intéressant. Félicien Guiraud, est-ce que tu veux qu'on te libère avant qu'on attaque la partie débat ou veux-tu participer à cette partie débat?
Alors, ça m'arrange qu'on me libère, messieurs, parce que vous voyez, juste pour la parenthèse, le rugby, c'est quand même chouette. Je suis à Nyon, en Suisse, à l'invitation d'un vieux copain de rugby que j'ai rencontré à Castres, qui est entraîneur là-bas. Et on est avec Rodrigo Caportega là-bas avec le club.
Oula.
Donc, je ne veux pas m'éclipser trop longtemps.
Très bien. Ça promet une belle soirée, ça. Félix Manguerrand en Suisse, c'est toujours une belle soirée assurée. Avec Rodrigo Caportega en plus.
Je ne promets pas de prendre le mic ce soir.
Il n'y a pas de karaoké ce soir, Philippe. Ah non, arrête, tu peux pas nous dire ça.
Bah, alors, peut-être que j'irai au karaoké, mais je sais pas, je sais pas.
Très belle soirée, Philippe. J'ouvre le débat. Tiens, il y a quelques mois, années, on avait l'habitude de le dire, et d'ailleurs, toujours, hein, l'équipe de France est la locomotive du rugby français. Soit. On entendait ces dernières années, la Coupe du Monde 2023, le projet Coupe du Monde 2023 sera la locomotive du rugby français. Soit. La Champions Cup et les victoires des clubs français dans cette compétition, c'est une locomotive du rugby français. Soit. Mais est-ce que le top 14 n'est-il pas la seule et véritable locomotive du rugby français au regard de ses chiffres, au regard de la bonne santé, au regard de ce statut unique au monde? Parce qu'il y a toujours eu un débat, est-ce que le top 14 est le meilleur championnat du monde? Canal Plus était vindicatif au début des années 2010, il y a eu ensuite des débats. Il n'y a plus de débat aujourd'hui. Alors est-ce que c'est le top 14 et la locomotive du rugby français? Clément Combe.
Oui, et j'ai envie de dire que c'est en train de le devenir depuis plusieurs années. Au début, quand j'ai vu la question sur mon papier, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça l'a toujours été. Alors non, ça l'a pas toujours été le top 14. Je pense qu'en fait, c'est en train de le devenir depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, on voit de plus en plus de joueurs français sur le terrain, on voit de plus en plus de gifs. Et là où avant on pouvait se dire oui, en fait, les résultats du 15 de France conditionnent la santé du rugby français, ça c'est toujours le cas en partie, notamment par rapport à l'exposition médiatique et bien d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, le top 14, du fait de ces nombreux joueurs de notre territoire, un peu partout, qui sont formés dans des clubs ou alors les gros clubs qui vont les chercher, ben on voit en fait de plus en plus de clubs s'appuyer sur ces joueurs français, sur ces jeunes joueurs français. Et donc ça, enfin ce vivier-là fournit ensuite l'équipe nationale, tout naturellement, qui, enfin c'est un effet un peu à rebondissement. Et
non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Clément, parce qu'en fait ça vient exactement au point que je voulais soulever. C'est que il y a encore 15-20 ans, quand un joueur arrivait en équipe de France, on disait ah tiens, il est en équipe de France, enfin qui est-il? Et à ce moment-là, il y avait un reportage, voilà qui est Yannick Jauzion. Voilà, qui est Yannick Jauzion, par où il est passé, il joue au Stade Toulousain, mais tout le monde n'était pas au fait qu'il joue au Stade Toulousain, tout le monde ne voyait pas tous les matchs du Stade Toulousain toujours. Il fallait lire la presse quotidienne régionale pour avoir des infos sur certains clubs et tout ça, avec maintenant internet et puis surtout avec le travail monumental de Canal+, mais aussi, et je le dis avec toute humilité, de Sud Radio. Le top 14, comme la Pro D2, ce sont des feuilletons. Et ça, c'est quand même ultra important. C'est-à-dire que la fidélisation, elle est chaque semaine. Et chaque semaine, il y a une histoire qui se raconte au fur et à mesure de la saison régulière jusqu'aux phases finales, avec des joueurs marquants, des joueurs qu'on découvre, des joueurs qu'on oublie. Mais il y a une histoire qui se construit. Et ce qui fidélise en fait vachement le téléspectateur.
Alexandre, on va prendre un exemple concret. C'est Mathis Ferté qui a marqué un essai tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, en première mi-temps. Mathis Ferté, je pense que ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on connaît son nom, qu'on le voit jouer, parce que Brive était en top 14 il y a 2 ans. Il a peut-être fait ses premières feuilles de match. Je pense que s'il n'y avait pas la règle des gifs, Mathis Ferté, on en aura entendu parler quoi depuis cet été au Mondial U20. Même pas. Sauf qu'en fait, on le connaît déjà depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Enfin, son nom commence à être connu. Et en plus, il joue en Pro D2 et c'est aussi
Parce que la fédération française de rugby diffuse les moins de 18, les moins de 20, moins de 20 développements sur les réseaux sociaux, sur Twitch.
Là où tu parles de feuilleton Pro D2, et c'est Ange Capuzzo qui en parlait très bien, juste avant de rejoindre le Stade Toulousain. Il disait, la Pro D2, c'est un marathon au sens où il y a des équipes qui font des impasses, c'est tellement long, les déplacements à l'extérieur et tout ça, faut aller partout. Donc oui, il y a des espaces, il y a des matchs à jouer et il y a de la place pour se montrer pour les jeunes joueurs français. Donc on a feuilletonné le top 14, c'est un feuilleton déjà depuis
il est très bien fait par Canal+, hein, il faut quand même bien le souligner. Parce que par exemple, quand on regarde, quand Canal+, ne diffuse pas l'intégralité de la Ligue 1 n'est plus un feuilleton. Honnêtement, je trouve.
Oui, ça a perdu de sa valeur.
C'est pas pour tirer dans les balles dans les jambes de Prime Video, pardon. Mais pour le coup, c'est moins feuilleton de la Ligue 1 que ça l'était il y a quelques années. Parce que Canal+ raconte des histoires. Et Canal+ raconte très bien l'histoire du top 14, comme nous le faisons sur Sud Radio. Et c'est vrai que c'est super appréciable de pouvoir suivre les choses semaine après semaine.
Ah ben moi je suis totalement d'accord, je sais pas si Quentin
est d'accord. C'est le top 14 la véritable locomotive du rugby français?
Je sais pas si c'est la véritable, parce que tu vois que dans toutes les catégories finalement ça fait stade plein, que les filles demain ça va être une audience record aussi. Donc visiblement tous les rugby grandissent au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de monde dans les stades, mais les stades sont de plus en plus animés aussi. Donc il y a évidemment le top 14, mais chaque club du top 14 fait grandir ce sport évidemment. Je vois par exemple,
est-ce que ce sont les diffuseurs les locomotives du rugby français?
Pas que. Alors évidemment, le fait que tout soit diffusé sur le même support aide énormément. Parce que si t'avais
multi supports, tu vois.
Ouais, non, mais je veux dire si t'avais plusieurs chaînes de télé par exemple qui diffusent les matchs, il y a beaucoup de matchs que les gens ne suivraient pas. Parce que c'est quand tu vois au foot, les gens vont pas payer forcément 4 ou 5 abonnements pour pouvoir voir tous les matchs. Au rugby, t'as le top 14 qui est sur une chaîne et à la rigueur les coupes d'Europe sur d'autres. Mais après tu sais que pour voir du rugby, c'est Canal+ quand tu veux voir le championnat.
Sur le service public, les coupes d'Europe, c'est aussi pour ça que ça aide.
Oui, et Bein aussi.
Oui, et aussi Bein, mais je veux dire c'est sur le service public, donc c'est aussi pour ça que c'est accessible au
public. Mais voilà, c'est que soit t'as Canal, soit c'est gratuit pour la grande majorité des cas. Donc forcément ça aide les gens à regarder, ça s'intéresse, tu t'intéresses quand tu les vois, quand tu le vois à la télé, ça te donne envie d'aller au stade, et quand t'arrives au stade, les choses sont plutôt bien faites, t'as des animations, je vois à Castres, il y a des showcases régulièrement en avant-match ou à la mi-temps, au Racing, t'as la Bodega en après-match qui fait venir des gens peut-être plus que les matchs parfois. Tu vois, t'as tout ça qui crée un environnement ou par les clubs, par les diffuseurs. Donc je pense que c'est un tout qui fait que le rugby marche bien en ce moment. Alors c'est pas le sport où il y a le plus de licenciés, mais il y a énormément de monde qui va le voir.
Ah mais d'ailleurs, ça fait clairement le référence à ça. Hein. On est quoi, le 10e club en termes de licence en France, mais on est la 2e diffusion et de loin.
Et puis en termes d'influence, ça doit être la 2e aussi, je pense.
Oui, bien sûr. Antoine Mazer, est-ce que c'est le top 14 la véritable locomotive du rugby français ou on partage un peu plus les lauriers?
Ouais, moi je vais un petit peu au-delà de ce que disaient Quentin et Clément sur les diffuseurs. Pour moi, la vraie locomotive qui fait, qui engage tout ça, c'est les communications des clubs. Aujourd'hui, l'outil de la communication rend la possibilité de toucher un nombre incalculable de monde, même au-delà du diffuseur. Quand tu peux voir ce qu'arrive à faire notamment les clubs, comme quand tu vois le stade Rochelet.
Ouais, mais justement, j'ai un bémol là-dessus, moi. Que justement, je trouve qu'il y a des clubs qui verrouillent de plus en plus leur communication et tu perds peut-être le côté humain que t'avais avant.